Afrique.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Cher Robin Dorsil, qui vous remercie de votre fidélité. Dans quelques minutes, Idrissa Seloudia vous présentera votre magazine Dialogue des religions. Mais en attendant, voici les dernières nouvelles du monde. Les Togolais connaissent le nom de leur président pour les 5 prochaines années. Fornia Singbe a été réélu avec plus de 58% des suffrages, selon les résultats proclamés par la Commission électorale nationale indépendante. Cependant, les chiffres de la CENI ne font pas l'unanimité. Le chef de file de l'opposition togolaise, Jean-Pierre Fabre, s'est proclamé président élu, rapporte l'AFP. On écoute le reportage de Kay Lawson, notre correspondante à Lomé.
La Commission électorale nationale indépendante a proclamé le président sortant vainqueur avec un pourcentage de 58,75% des suffrages exprimés. Avec 34,95% des voix, Jean-Pierre Fabre arrive en deuxième position, ce qu'il conteste en dénonçant un hold-up électoral. Fornia Singbe rempile ainsi pour un troisième mandat au moment où Jean-Pierre Fabre promet arracher sa victoire tout en rassurant les jeunes acquis à sa cause d'attendre les mots d'ordre. Le gouvernement togolais, par la voix de son ministre de la Sécurité, dit être fermement attaché au calme et à la sérénité dans le pays. Il y a un vainqueur et il y a un vaincu, que la sagesse prévale. Gare au désordre a mis en garde le colonel Yak Damhan à l'annonce de la victoire de Fornia Singbe. Soulignons que la CENI a proclamé les résultats ce mardi 28 avril 2015, après avoir rencontré une délégation présidentielle de la CEDEAO, composé du Ghanéen John Mahama et de l'Ivoirien Alassane Ouattara. Ces derniers ont aussi discuté avec le candidat de CAP 2015 et l'ont invité à recourir aux voies légales pour une éventuelle contestation des résultats de la CENI. Kailosson, Lomé, VOA Afrique.
Au Mali, 2 membres de la garde nationale et un enfant ont été tués tôt ce matin par les hommes armés à Goundam, près de Tombouctou. Les assaillants ont pu s'échapper. Le mobile de leur attaque n'est pas encore connu. Alassane Cissé est directeur de la radio Kumba Jodé à Goundam.
Vers 5h30, à la sortie de la mosquée, on entendait des coups de feu. Immédiatement, les gens se sont tarés dans leur maison. Ça a duré 30 minutes. À 6h, les coups de feu ont cessé et la jeunesse en était sortie pour se rendre vers le camp de garde. Arrivé sur les lieux, on a trouvé que le chef de peloton, lui, était déjà criblé de balles, ainsi que son adjoint et un de ses neveux, qui est arrivé hier soir seulement, dans l'après-midi chez lui. Et les assaillants, ils sont repartis dans 2 criseurs. Dans une crisière, il y avait 2 personnes. Dans l'autre, il y avait 3. Les gens ont se dit partout dans la ville, est-ce que ce n'est pas un règlement de compte? Les gens sont venus le chercher directement chez lui. C'était des surnourris. Mais on ne sait pas au juste de quoi est-ce qu'il s'agit. Parce que dès que le forfait est commis, les gens sont retournés sur la route de Tombouctou. L'armée était venue, la gendarmerie, je ne sais pas, ils sont partis à leur trousse ou quoi. C'était dur quand même. 3 personnes. On les a même enterrés vers 11h30. Toute la population était là. Il y avait même le chef de peloton de Diré qui était là à l'enterrement.
Déclaration d'Alassane Cissé, directeur de Radio Kumba Jodé à Goundam. Au Nigeria, l'armée dit avoir sauvé près de 300 femmes et filles captives de Boko Haram. L'opération de sauvetage s'est déroulée mardi dans la forêt de Sambisa, un des derniers bastions du groupe extrémiste islamique dans l'état de Borno, dans le nord-est du pays. Jean-Roger Bion.
Cette forêt était considérée comme le lieu où les islamistes cachaient plus de 200 collégiennes enlevées à Chibok il y a un an par les extrémistes. Mais un porte-parole de l'armée nigériane a fait savoir que les filles de Chibok ne figurent pas parmi les personnes secourues. Les otages étaient répartis dans 3 camps au cœur de la forêt qui ont tous été détruits, selon le ministère nigérian de la Défense. La secte Boko Haram avait un moment pris le contrôle d'une partie des états de Yobe, Borno et de l'Adamawa, mais a aujourd'hui perdu la quasi-totalité de ses territoires à la suite de l'offensive multinationale. Le gouvernement du Niger a annoncé de son côté que 46 soldats et 28 civils ont été tués au cours de combats contre les militants de Boko Haram pour le contrôle de Karamga, une île sur le lac Tchad. 156 islamistes ont également été tués dans ces affrontements. Selon la même source, l'armée nigérienne affirme avoir repris le contrôle de l'île. Le Niger, le Tchad, le Cameroun et le Nigeria ont récemment lancé une offensive pour mettre fin à l'insurrection de Boko Haram qui a fait plus de 10 000 morts et déplacé plus d'un million de personnes dans le nord du Nigeria.
Situation toujours tendue au Burundi en rapport avec la candidature du président Pierre Nkurunziza à un autre mandat à la tête du pays. Le secrétaire d'État adjoint américain aux droits de l'homme et à la démocratie, Tom Malinowski, devait rencontrer aujourd'hui les dirigeants burundais. Ici à Washington, l'ancien secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines, Johnny Carson, aujourd'hui membre de l'Institut de la paix des États-Unis, se dit préoccupé par les risques de déstabilisation de ce pays des Grands Lacs. Eddie Isango nous en dit plus.
Dans une interview à la VOA, Johnny Carson a déploré la décision du parti CNDD-FDD de désigner le président Pierre Nkurunziza candidat à un autre mandat.
I think that it would have been better for purposes of stability.
Je pense qu'il aurait été mieux, pour des raisons de stabilité, de s'en tenir aux principes édictés par les accords d'Arusha. Ces accords limitent à deux le nombre de mandats qui peut exercer un président. Le gouvernement estime que M. Nkurunziza a droit à un autre mandat, ce que conteste l'opposition. Johnny Carson a appelé les Burundais à la retenue.
It is absolutely essential that all parties...
Il est absolument essentiel pour toutes les parties, les gouvernements comme l'opposition, de ne pas utiliser ces désaccords politiques pour provoquer la violence et les troubles civils. L'ancien secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines a exhorté les autres pays africains à suivre les bons exemples. Il est important pour les pays ayant prévu la limitation des mandats dans leur constitution de la respecter, de s'inspirer de ce que font les Nigeria, les Mozambique, les Malawi, la Zambie, la Namibie, l'île Maurice et Madagascar, et non pas de ce qui se passe au Burundi, a déclaré Johnny Carson.
VOA Afrique en direct de Washington.
République démocratique du Congo, Nord Kivu, quatre jeunes du mouvement Lutte pour le changement, arrêtés début avril à Goma, ont été libérés sous caution cet après-midi, après une décision de la cour d'appel samedi, indique Lucha RD Congo sur son compte Facebook. Le directeur de la prison, Munzenze, a confirmé leur libération, rapporte l'AFP. Un procureur français mène une enquête préliminaire sur des allégations d'abus d'enfants par des soldats français en Centrafrique, a déclaré ce mercredi un porte-parole du ministère de la Justice. Il répondait à un article du quotidien britannique The Guardian, disant que le directeur des opérations de terrain au Haut-Commissariat de l'ONU, Anders Kompass, avait été suspendu après avoir révélé au procureur un rapport interne sur l'exploitation sexuelle des enfants par les troupes françaises. Le roi Salman d'Arabie Saoudite a procédé à un vaste remaniement renforçant le pouvoir de son clan au sein du royaume. Ce remaniement est surtout marqué par un rajeunissement au sommet de la monarchie. Ainsi, le prince Saoud Al-Faisal, inamovible ministre des Affaires étrangères depuis 40 ans, est remplacé par l'ambassadeur saoudien à Washington, Adel Al-Joubeir, 53 ans. Le souverain saoudien a éloigné du trône son demi-frère, le prince Mokhren, 69 ans, pour le remplacer par son neveu Mohamed Ben Saïef Ben Naïef, 55 ans. En Syrie, l'armée gouvernementale est à l'offensive avec des frappes aujourd'hui à Alep dans le nord et Idlib dans le nord-ouest du pays. Au moins 21 personnes, dont 6 enfants, ont été tuées et plus de 50 blessés dans ces raids, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme que cite l'agence France-Presse. États-Unis, retour au calme ce mercredi à Baltimore, dans l'État du Maryland, après plusieurs jours de manifestations violentes. Les cours ont repris dans les écoles et, selon la police, la ville est entièrement sécurisée. Hier soir, seulement 10 personnes ont été arrêtées devant les manifestations. La veille, le nombre d'arrestations dépassait 250. Les violences dans cette ville de l'Est américain font suite à la mort d'un jeune noir de 25 ans, Freddie Gray, alors qu'il était dans un fourgon de la police. Et réagissant à la situation, la candidate à l'investiture démocrate pour la présidentielle de 2016, Hillary Clinton, a appelé ce matin à un rééquilibrage du système judiciaire américain, dénonçant les violences à Baltimore et ce qu'elle appelle la discrimination de la police à l'encontre des Noirs. La chef de la diplomatie de l'Union européenne, Federica Mogherini, a rappelé la responsabilité particulière des pays européens face au problème de la migration illégale en Méditerranée. Elle s'exprimait en marge d'une rencontre avec son homologue américain John Kerry, ici à Washington. Comme le rappelle l'AFP, plus de 1750 migrants ont trouvé la mort en tentant de traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Europe depuis le début de l'année, soit 30 fois plus que pour la même période en 2014. Il y a une semaine, on se le rappelle, le naufrage d'un chalutier au large des côtes libyennes a fait plus de 700 morts. Les nouvelles du monde. Washington, chez Robin Dorsil.
«
Soyez au cœur de l'information.